Notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Nous reconnaissons que l'Église n'est pas toujours celle qu'elle devrait être vis-à-vis des plus faibles, vis-à-vis de ceux qui ont moins ou même rien. Nous reconnaissons que nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur, toujours fidèles. Et nous venons à toi tel que nous sommes, avec nos fardeaux, avec peut-être notre culpabilité. Et nous implorons ton pardon, ta miséricorde, ta grâce, ton amour. Amen. Mais heureusement, nous pouvons ne pas en rester là. Nous pouvons nous réjouir que le Christ a déjà porté notre culpabilité, que le Christ nous a déjà pardonné, que le Christ a déjà tout accompli à la croix. Et on peut lire cette bonne nouvelle de l'Évangile, du message que finalement la foi chrétienne veut transmettre au monde. Nous la lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Amen. Et on prie encore pour remercier Dieu pour son salut. Et je vous invite, si l'un ou l'autre d'entre nous veut spontanément prier courtement, qu'il ou elle puisse le faire, et je conclurai par la prière. Ce que tu as fait pour ce monde, accompagne-nous maintenant dans la suite de notre culte. Parle-nous par la prédication de ta parole. Ouvre les oreilles de nos cœurs et que cette parole puisse venir nous encourager, nous montrer ton amour et ta fidélité. Amen. Alors nous poursuivons aujourd'hui la saison 2 de notre série « À contre-courant », une série qui reprend une douzaine de fruits de l'esprit, ou autrement dit, une douzaine de valeurs que l'Évangile nous invite à cultiver dans un monde, dans une société qui n'est pas toujours en phase avec ces valeurs. Lors de la première saison, au printemps, on avait parlé de vérité, d'espérance, de liberté. Et puis, cet été, pendant le mois d'août, on a déjà parlé de douceur et d'amour, et aujourd'hui de fidélité. Alors, cultiver la fidélité dans une culture d'inconstance. Et pour commencer, je vous propose de lire le texte du jour qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et qui est la suite du texte prêché par Ursula dimanche dernier. Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 21. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes des Écritures, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur !»« Non, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon la façon dont il aura agi. » Nous voilà donc en chemin avec Jésus et ses disciples, pour voir ce que ce texte peut bien nous enseigner sur la fidélité et puis sur cette culture d'inconstance ou d'infidélité. Et on va reprendre le même format que les dernières fois, d'abord un petit mot de contexte, petit focus sur les personnages de l'histoire, et puis qu'est-ce que Sabieu peut bien vouloir nous dire encore à nous, aujourd'hui, 2000 ans après. Alors évidemment, il faut s'en rappeler, cette histoire, ce texte raconte une histoire d'il y a 2000 ans environ, au Proche-Orient. Et les voyages dans ce temps-là se font souvent à pied pour les rabbins itinérants, les enseignants itinérants et leurs disciples. Jésus est l'un d'entre eux, l'un de ces rabbins itinérants, avec un succès grandissant. Les foules le suivent, le cherchent, l'occupent. Il est connu, fameux, adulé par beaucoup, aimé de tous ceux dont il prend soin. Et dans l'évangile selon Matthieu, dans lequel ce texte se trouve, l'auteur structure son propos autour de deux axes principaux. Premier axe, il est composé de cinq grands discours de Jésus, dont le premier est le plus connu, le sermon sur la montagne. Et ce récit qu'on a lu se situe entre le troisième et le quatrième discours. On pourrait qualifier ce premier axe de chemin de vie éthique que finalement le croyant est appelé à emprunter. Le deuxième axe, il est plutôt chronologique, même si beaucoup d'événements sont un peu concaténés, un peu oubliés, un petit peu comme quand on passe d'une série de livres à une série de films. Surtout pour les puristes, c'est pas toujours simple. Et l'auteur de l'Évangile écrit son livre comme s'il s'agissait d'une seule histoire, allant de la naissance de Jésus à Bethléem, son début de ministère en Galilée, au nord, et puis, et principalement, sa montée vers Jérusalem, son voyage de Galilée à Jérusalem, avec évidemment sa mort et sa résurrection, un petit peu comme s'il n'y était allé qu'une seule fois dans sa vie. Et on pourrait qualifier ce deuxième axe de chemin de vie pratique que le croyant est aussi appelé à emprunter. Dans une certaine mesure, plutôt de contemplation que d'appropriation, ou autrement dit, plutôt d'apprentissage que de refaire tout le chemin soi-même. Alors les disciples suivent Jésus, non seulement de façon imagée, éthique, dans leur façon de vivre, mais aussi de façon tout à fait pratique, presque littérale pour le coup. Et même cette durée de 3 ans n'était pas anormale. Les disciples passaient souvent 3 ans avec leur maître pour apprendre de lui. Pendant ces 3 ans, Jésus s'est efforcé à la fois de leur ouvrir les yeux sur le monde qui les entoure, sur l'amour à vivre, à partager, mais il s'est aussi efforcé de les amener avec lui jusqu'à Jérusalem, où il devait mourir, comme l'avait annoncé les textes de l'Ancien Testament qu'il avait justement l'habitude d'enseigner à ses disciples et aux foules. Alors, il y a évidemment toujours deux personnages qui nous occupent, Pierre et Jésus. Encore eux. Souvent eux. Pierre obtient souvent le second rôle dans les récits des évangiles. Et c'est ici encore une fois le cas. Pierre, c'est le disciple qui prend la parole facilement. On pourrait penser qu'il est le porte-parole ou le chef du syndicat. En tout cas, il parle avec Jésus. Et c'est ce que l'auteur veut nous raconter. Jésus explique à ses disciples qu'il se rend à Jérusalem pour que lui y meure. Imaginez-vous un seul instant, vous êtes en train de manger avec votre en famille, tout va bien, et tout d'un coup, l'un d'entre vous se lève et annonce qu'il vous paye un voyage à l'autre bout du monde, tous ensemble. Bon, jusque-là, tout va bien, tout le monde est content pour les vacances à venir, mais il vous annonce que c'est pas pour passer de belles vacances, mais pour assister à son enterrement. Bonjour l'ambiance. Qui d'entre nous ne se lèverait pas pour lui dire « Arrête tes histoires, t'as peut-être un petit peu trop bu. De toute façon, t'as pas les moyens pour nous payer les vacances à tous. Et puis, hein, là, pourquoi est-ce que tu penses à mourir? Pourquoi est-ce que tu parles de mort ?» Eh bien, c'est exactement ce que fait Pierre avec Jésus. Il l'arrête dans son élan, lui demande d'arrêter avec ses discours morbides. Pierre ne veut pas que Jésus meure. Et on le comprend. Quelque part, c'est un beau signe d'amitié. C'est une belle preuve de fidélité. Un beau signe d'honneur, de loyauté. Alors que dit la suite? On se souvient, l'auteur a déjà mis son lecteur en chemin, dès les premières phrases. Le croyant est en chemin à la suite du Christ, tout comme l'étaient ses disciples, dont Pierre, il y a 2000 ans. Et là, Pierre, quand il dit à Jésus « Arrête de dire que tu vas mourir », il faut remarquer ce que Jésus répond, et cette traduction le rend assez bien. Jésus déclare à Pierre qu'en disant cela, il devient un obstacle sur sa route, sur son chemin, un Satan, un adversaire, un opposant, littéralement. On imagine donc mieux le mouvement un petit peu symbolique. Jésus marche vers Jérusalem, vers sa mort, mais aussi sa résurrection. Et ses disciples, dont Pierre, marchent à sa suite ou à ses côtés. Et en voulant empêcher Jésus d'aller vers la Pâque, d'aller vers les souffrances qui l'attendent, Pierre n'est plus à côté de Jésus, mais il se place devant lui, face à lui, en travers de son chemin, comme un obstacle. Ceci dit, c'était sûrement la meilleure façon de pouvoir attirer son attention. Et c'est là que Jésus lui explique, en lui faisant comprendre que la place de Pierre n'est pas de l'empêcher de mourir, mais plutôt de croire en sa résurrection. Et Pierre, il est plutôt coriace. Il ne se laisse pas convaincre si facilement, mais il aime Jésus. Et en cela, il lui est fidèle. Et si on lit les évangiles, on voit bien ces épisodes où Pierre ne comprend pas pourquoi Jésus devrait aller mourir. Et plusieurs fois, il tente de l'en empêcher. Alors Jésus profite de ce dialogue avec Pierre pour parler à son groupe de disciples, de tous ceux et celles qui le suivaient. Jésus, quelque part, il mobilise toute l'image du chemin dans cette réponse. Est-ce qu'il parlait déjà de la croix? Ou est-ce que l'auteur, sachant qu'il est mort sur la croix, a un petit peu perfectionné le récit ainsi? Difficile à dire, mais dans tous les cas, l'image est forte. Puisque Jésus invite ici ses disciples, et l'auteur invite ici aussi ses lecteurs, c'est-à-dire encore nous aujourd'hui, puisqu'il nous invite à le suivre sur ce chemin, non pas de mort, mais de résurrection. Et c'est là toute la force de l'enseignement de Jésus. La mort n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. L'inconstance ou l'infidélité, pour en revenir à notre thème, n'est pas la fin. Ou plutôt, on pourrait le formuler autrement, la mort du Christ n'est pas un signe d'inconstance ou d'infidélité parce qu'elle aboutit à la vie, à la résurrection. Et cette résurrection, c'est le signe ultime de la fidélité de Dieu. Parce que finalement, c'est assez simple de parier sur le fait de mourir, parce que ça va arriver à chacun d'entre nous. Il faut se rappeler aussi le contexte de Jésus. Un rabbin au succès grandissant, suivi par les foules, mais aussi suivi par des groupes indépendantistes, révolutionnaires, violents, prêts à se révolter contre l'occupant romain qui gouvernait aussi le pays de main de fer. Et c'était un peu une recette facile, finalement, pour être condamné à mort, le succès de Jésus. Il n'en fallait pas forcément beaucoup plus pour être suspecté et condamné. Par contre, pour la résurrection, ça c'est un peu une autre paire de manches. Et c'est sur ça que Jésus parie. C'est sur ça qu'il parle. C'est là-dessus qu'il challenge ses auditeurs et ses disciples, la vie. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il explique à ses disciples qu'ils ne doivent pas l'empêcher d'aller vers ce qu'il doit faire. Mourir et revivre pour le salut du monde, pour la réconciliation du monde avec Dieu, pour la victoire de la vie sur la mort, pour l'espérance d'une paix et d'une fidélité éternelle à venir. Et là, on peut inverser les rôles. Et si tout à l'heure, Pierre était qualifiable d'ami fidèle jusqu'au bout, jusqu'au boutiste aussi, Jésus est ici aussi qualifiable d'ami fidèle, d'un ami prêt à aller jusqu'à la mort pour revivre, non seulement pour lui, mais pour l'humanité tout entière, pour la terre entière. Et l'auteur, comme ça, boucle la boucle de son récit, puisque c'est de cela dont il parlait au tout début, dont parlaient les Écritures, les textes de l'Ancien Testament. C'était ça, la promesse tant attendue de Dieu. La preuve que ce qui était écrit à propos de ce Dieu d'amour et fidèle était vrai. Alors qu'est-ce que ce récit peut bien nous enseigner encore à nous aujourd'hui sur la fidélité? D'abord, c'est évident que nous vivons dans une culture d'inconstance ou d'infidélité. Il suffit de regarder autour de nous pour le voir. Combien d'alliances sont rompues par une parole trop rapide et ravageuse? Que ce soit pour des alliances commerciales entre pays, ou que ce soit au sein des couples, mais aussi dans les fratries. Combien de frères et sœurs se dévorent quand il s'agit de trouver un compromis par rapport à un héritage? Et puis, ne parlons pas des collègues de travail. Vous savez, ces arrivistes, ceux qui sont prêts à tout écraser sur leur passage pour plaire à la direction et espérer avoir la meilleure place. Qui autour de nous est fidèle? Ces amis qui sont toujours avec nous depuis des années quand tout va bien, et puis aujourd'hui, quand je suis au fond du trou, plus personne n'est là. Vous allez me dire que le tableau est un peu forcé. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a aussi de la fidélité quand même dans ce monde. Il y a des amis fidèles, il y a des couples fidèles, il y a des gens fidèles à leurs collègues, fidèles à leur fratrie, fidèles à leurs valeurs. Mais quand même, le quotidien est assez mitigé. Et c'est douloureux de voir un proche nous trahir, ou en tout cas trahir notre confiance, ne plus être fidèle, pas qu'à nous-mêmes, mais aussi à l'Alliance, au projet commun. C'est douloureux et les souffrances causées par l'infidélité sont grandes. Et c'est le réformateur protestant Jean Calvin, au XVIe siècle, il y a bien longtemps, qui se faisait la réflexion sur les années passées. Il avait de nombreux amis et il s'était aperçu, en y réfléchissant, que la majorité de ses amis l'avaient au moins une fois, mais souvent sinon, abandonné, trahi, laissé pour compte. Bon, Calvin n'était pas le plus facile de caractère, mais pour lui, l'homme ne pouvait pas être fidèle de façon parfaite. Seul Dieu le pouvait. Cette réalité l'a peut-être conduit à certaines positions un petit peu extrêmes, mais là où il avait raison, c'est le fait de relever que Dieu est fidèle parfaitement. C'est d'ailleurs ce que le texte essaie de dire en rappelant que l'Ancien Testament n'avait fait que de parler de ce qui allait maintenant arriver, la mort et la résurrection du Sauveur et Seigneur. Et pour revenir à Calvin, il soulignait donc cette fidélité parfaite de Dieu, mais cette fidélité-là, avouons-le, elle n'est pas toujours évidente à voir. Tout comme d'ailleurs le fait que Jésus allait réellement ressusciter pour les disciples. Eux ne pensaient pas plus loin que la mort, alors qu'il leur avait tout dit. La fidélité de Dieu n'est pas facile à voir. Tout simplement à cause de l'infidélité des êtres humains, envers Dieu, entre eux, les autres envers moi, et moi envers les autres. Dans cette culture d'inconstance, d'infidélité, tout simplement dans cette culture faite de haut et de bas dans nos relations humaines, eh bien cet appel du Christ à le suivre, non pas pour la croix du Christ, non pas pour la mort, mais pour la vie, c'est bien ça, prendre sa propre croix, pas celle du Christ, comme le disait un collègue retraité, Émile Nicole, que certains connaissent. Nous n'avons pas besoin de refaire ce que le Christ a fait. De toute façon, on ne peut pas. Pierre, le premier, ne le pouvait pas. Lui qui lui dira d'ailleurs qu'il est prêt à aller jusqu'à la mort avec lui. Et puis, il nie le connaître quelques heures plus tard. L'être humain, dans sa culture d'infidélité, a besoin de la fidélité en personne, a besoin de savoir qu'il y a au moins dans ce monde quelqu'un qui est toujours là et qui veut amener l'humanité à la vie. Et c'est ça notre espérance, la vie. Et nous pouvons nous rappeler que le Christ a déjà porté sa croix, qu'il est déjà mort à la croix. Pas besoin pour nous d'imaginer que nous devrions ou que nous pourrions même le faire. Nous pouvons nous rappeler que le Christ nous invite. Pierre, toi et moi et tous les autres, à le suivre, à ses côtés, non pas vers la mort, mais vers la vie, malgré nos doutes et avec notre bonne volonté. Que le Christ est lui-même le chemin vers Dieu, c'est-à-dire la vérité et la vie. C'est ça le signe de sa fidélité envers nous. Qu'à notre tour, à sa suite, nous pouvons aussi être des fidèles témoins de son amour, de sa paix, de sa fidélité, en étant des artisans de paix et de réconciliation autour de nous. Et comme à chaque fois dans cette série, j'aimerais conclure avec ce que une auteure mennonite, Christine Haldeman, écrit justement sur ce sujet de la fidélité comme une réponse à cette culture de l'inconstance, après quoi nous prendrons un temps de réflexion personnelle, de méditation. Et cet auteur dit « Quelqu'un a dit, et elle cite quelqu'un d'autre, « La fidélité est ce qui permet dans le temps de vivre un avant-goût de l'éternité. La fidélité est ce qui permet dans le temps de vivre un avant-goût de l'éternité. » Et elle rajoute, c'est vers cette vie épanouie que la Trinité, que Dieu, nous entraîne en route pour la transformation d'une société sincère, vraie, confiante en Dieu et fidèle. Amen.